Voilà, je vous retrouve pour plusieurs avec plaisir. Je retrouve un temple protestant avec plaisir. J'ai plus l'habitude que Jean Guibal de parler dans les temples. Mais depuis 30 ans, je n'avais jamais parlé sans ma croix huguenote. Et je l'ai perdue il y a 3 semaines en tronçonnant du noisetier dans mes rochers cévenols. Alors, on va me prêter un détecteur de métaux. Et je vais chercher...
Mais ça ne marche pas. Il me semble que ce n'est pas la première fois que tu l'as perdue, mais tu l'as retrouvée.
Oui, là j'espère la retrouver, donc je parle nu devant vous, et je vais rendre donc maintenant hommage à Pierre Boll, l'historien. Je l'ai connu comme Jean Guibal et comme tous ici personnellement. Pierre me regardait, on avait une différence d'âge évidemment, il me regardait de manière un peu matoise, un peu ironique, considérant que j'étais une sorte, à l'époque, sorte de jeune. On est tous jeunes à un moment, jeune blanc-bec. Et il me regardait avec cette sorte d'esprit de protection. C'était un parrain, Pierre. Un parrain ironique qui regardait le jeune qui montait. Et on s'est regardé comme ça en particulier. C'est un bon souvenir. Même si à l'époque, ça avait débouché sur rien. Jean, c'est un musée auquel tu n'as pas pensé, qui s'appelle aujourd'hui Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Et on était dans des réunions préparatoires, mais c'était, je crois, le 4e projet. Seul le 5e a abouti, il y a maintenant 3 ans. Et on était ensemble avec Pierre au Chambon-sur-Lignon pour s'occuper de ces choses-là. Voilà. Et j'ai rédigé aussi sa notice dans le dictionnaire biographique des protestants français. Si j'en parle, c'est parce que Pierre a été un gros contributeur dans le livre qui a précédé le dictionnaire biographique, le livre dirigé par André Encrevet en 1993, Les protestants chez Beauchesne. Et c'est aussi, parce que hier, il a été fait allusion aux engagements féministes, on peut le dire, de Christiane, c'est aussi parce que Pierre Boll n'a cessé de nous dire, notamment André Encrevet, qu'il y avait trop peu de femmes dans ce dictionnaire biographique des protestants. Alors, il s'appelle dictionnaire biographique des protestants français, mais on essaye d'y insérer un nombre le plus grand possible de femmes pour rendre leur place. Et Pierre a été de ceux qui nous ont prévenus. Voilà, sa carrière, il a été pendant un quart de siècle prof de fac, à la fois à ce qui maintenant s'appelle Mendès France, Université Pierre Mendès France, je pense. Comment ?
Ça change.
Oh là, oui, pardon. J'ai du mal à suivre l'université. Jadis, c'était la fac, puis l'université, et aujourd'hui, c'est autre chose. Bref, il est universitaire, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Voilà. Alors, je vais parler en deux moments, d'une part de son œuvre et ensuite de quelques réflexions que m'inspire cette œuvre. Cette œuvre, elle est, à mes yeux, organisée en 3 massifs. Massif dont le GR gouvernant est bien sûr le protestantisme. Et à ce titre, je vais le dire comme ça, Pierre, pour moi, était l'homme fort, si vous voulez, pendant un quart de siècle. C'est à peu près le temps de sa durée de conservateur du musée du Puy de Laval. Il a été l'homme fort de l'histoire du protestantisme dauphiné, où à la même époque, c'est la même génération à peu près, à la même époque, Gabriel Odizio était et est toujours l'homme fort des Vaudois du Luberon, et mon maître, Philippe Joutard était et reste l'homme fort du protestantisme cévenol et camisard. Voilà, il y a comme ça, on pourrait faire une carte de France avec les grands historiens de ces accents régionaux du protestantisme, et Pierre Boll, à l'évidence, bien sûr, si j'ose dire, était l'empereur, je peux le dire comme ça, l'empereur démocratique de l'histoire du protestantisme dauphinois. 3 massifs, puisque nous sommes dans le Dauphiné. Le premier massif, c'est l'histoire du protestantisme régional, avec plusieurs ouvrages collectifs liés, et ça on l'a tous connu, moi je démarrais à l'époque, liés tout simplement aux anniversaires commémoratifs. Jean a ironisé tout à l'heure, fraternellement, sur la passion protestante des musées, pire que la passion protestante des musées, la passion protestante de la commémoration. Sauf que les protestants commémorent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par commémorer la révocation de l'édit de Nantes en 1985. Mais ceci dit, c'est comme s'il y avait un bon sens de l'histoire. Et quelques années plus tard, 13 ans après, ils ont commémoré l'avance que la France avait prise par l'édit de Nantes. Et finalement, ça allait bien. La commémoration était dans le bon sens. L'histoire était dans le mauvais sens des choses. Et Pierre, à ce moment-là, a dirigé 3 livres. Je vous fais grâce de sa bibliographie qui est abondante. 3 ouvrages collectifs sur l'histoire de ce protestantisme dauphinois sous l'édit de Nantes ou au moment de la révocation. C'était sa dimension régionale. La seconde dimension de son œuvre, à mon sens, la plus pionnière, la plus inventive, y compris au sens où il est, comme les archéologues, il a inventé, et Olivier Cohn le sait, puisque ce qu'il a inventé est chez lui maintenant, il a inventé des archives d'histoire, je vais y revenir, c'est le Pierre Bol dont nous sommes, François Boulet, moi-même, les héritiers et les continuateurs, nous essayons d'être ses continuateurs, un grand historien, le premier peut-être, dans les années 1970, de l'histoire des protestants français dans les années 1940. Et à ce propos, il a écrit des articles qui ont été profondément novateurs, dont je suis, moi, je ne sais pas toi François, moi je suis vraiment l'héritier reconnaissant. Un article sur, aujourd'hui c'est devenu, je dirais, banal, il y a eu Bernard Raymond plus tard qui a travaillé sur ça, mais le défricheur, c'est Bol, c'est Pierre Bol, un article sur l'influence du baptisme dans le protestantisme français des années 1930. Un article sur les églises protestantes françaises dans les années 1979. Et puis le premier grand article, avant le Pierre Vidal-Naquet de Si Dieu le fit, dont François a parlé hier, un grand article majeur sur les protestants français, leurs églises, face à ce que dans les années 40 on appelait la question juive, face à l'antisémitisme de Vichy, à la Shoah, à la déportation. Pierre a été vraiment l'un des tout premiers à travailler sur ces questions-là, il a défriché. Si vous pensez peut-être dans la salle qu'un article, qu'est-ce que c'est qu'un article, 10 pages, mais 10 pages d'articles peuvent quelquefois apporter bien plus de neuf que des gros bouquins de synthèse, et pour cela Pierre a beaucoup apporté. Je signale qu'à côté de ces articles, il avait dirigé animé, c'était en 1990, et je reparle du Chambon sur Lignon, parce que c'est un Dauphinois qui a un peu annexé le Chambon, Pierre. Hein. Tout le monde annexe le Chambon, et le Chambon annexe aussi. Hein. Vous avez vu hier, si vous étiez là hier, la petite concurrence historienne entre le François Boulet de Mainz et Dieu le fit, et puis le François Boulet du Chambon, parce que lui aussi il annexe le Chambon, moi aussi on est tous au Chambon, aux Cévennes, à Dieu le fit, et Pierre a dirigé ce grand colloque. Les actes, c'est 700 ou 800 pages. Et c'est indépassable parce qu'il y a des témoignages, il y a des études. Le grand colloque sur le plateau du Vivarais-Lignon, je ne sais plus quel titre exact, pendant les années 1940. Et puis aussi, il a fait un ouvrage tout à fait remarquable, un autre ouvrage collectif, avec un prêtre qui était de ses amis. Ça, c'est le côté œcuménique de Pierre Bol. Le prêtre, c'est Jean, c'est ça, Godel? Jean Godel, et cet ouvrage paru en 1987, la même année, j'ai eu que le Cévennes Terre de Refuge, et Pierre Bol regardait avec un petit sourire en coin Cévennes Terre de Refuge, parce qu'il pensait qu'on était passé un peu vite sur le côté résistance spirituelle, dont il est vraiment l'un des spécialistes, et ce livre collectif qui tourne surtout autour du Vercors des Jésuites de Yves de Montcheuil, il y a au centre un article fondamental de Pierre Bol, c'est plus qu'un article, c'est une anthologie sur les textes successifs par lesquels l'Église réformée de France ou certains de ses théologiens, avec ou sans mandat, comme aurait dit la hiérarchie épiscopale du temps, ont dit ce que devait être l'attitude des Églises face à l'État et face à la persécution des Juifs, notamment Pomérol. Voilà. Et puis, j'essaie toujours d'aller vite parce que je vois qu'il y a un timing sévère. Jean y a fait allusion. Pierre a découvert, de certaine manière, il n'a pas eu le temps de l'éditer, mais il a, je peux dire, découvert, j'ai presque envie de dire comme un instant inventé au sens des archéologues, ce journal d'Alexis Muston. On ne sait pas encore exactement combien de pages, j'en ai parlé hier, le premier tome à mes yeux, c'est, ça j'en suis sûr, j'ai compté, c'est 1 500 000 signes, ça veut dire que le journal c'est 5 millions de signes environ, et Pierre non seulement l'a inventé, il a fait aussi ce travail que nous connaissons les historiens, lorsque nous avons affaire à des sources privées, ce travail d'approche des détenteurs des sources privées pour les rassurer. J'ose pas dire pour les séduire, mais pour les rassurer, pour leur dire que les trésors familiaux et privés, y compris oraux, quand c'est les mémoires orales qu'ils ont, il faut les mettre dans la circulation collective. Et il avait réussi ce travail, et effectivement, nous allons le mener à bien. Je rappelle que les premiers contacts entre Pierre Bol et les descendantes du pasteur Muston, et aussi la descendante d'un pasteur ami du pasteur Muston, c'est la grande dynastie des pasteurs vaudois, Appia. et c'était Béatrice Appia. Ils ont travaillé en équipe, et c'est en 1978 que Pierre a pris ses premiers contacts. Son premier article sur Mustang, totalement pionnier, c'est 1985. La belle exposition de Bourdeaux, qui a ensuite circulé dans les vallées vaudoises et en Allemagne, c'est 2003. Voilà. Alors maintenant, et pour en terminer, quelques réflexions sur Pierre comme historien. Première réflexion, j'en ai parlé hier à propos de Mustang. Ça, c'est mon côté marxiste. Pardon. Mon côté gramscien, ce qui est un marxisme un peu décalé. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Pierre était l'historien du protestantisme dauphinois. Il a été, comme le disait Gramsci, j'aime ce mot, Roger Zuber l'a pas aimé dans un article que j'avais fait, l'idée que dans le protestantisme, il y a des intellectuels organiques, il y a des pasteurs. Et puis il y a des intellectuels organiques, c'est-à-dire qui servent autrement, qu'en prêchant bien sûr, qui servent autrement le protestantisme, en faisant de l'histoire, en faisant des conférences, en écrivant des livres, en étant conservateur de musées. Et Pierre a rempli tous ces rôles-là, et il a été, je crois, comme d'autres avant lui, comme d'autres sans doute après lui, un bel exemple d'intellectuel organique du protestantisme dauphinois et du protestantisme français. Je songe à ce travail sur les années 40. Deuxième aspect de sa personnalité, je l'ai dit, il a été un inventeur d'archives. Et, pardon de parler technique entre historiens, vous pensez à juste titre qu'un historien, c'est quelqu'un qui va dans les archives pour travailler dessus. Mais quand il s'agit, même d'ailleurs d'histoire plus ancienne, mais surtout, c'est surtout vrai pour l'histoire contemporaine, un historien, c'est aussi quelqu'un qui ne se contente pas de travailler sur des archives qui lui sont fournies dans des dépôts ad hoc, c'est aussi quelqu'un qui fabrique lui-même ses archives. Et elles sont, les archives de Pierre Boll, elles sont en face. Hein. J'ai découvert tout à l'heure que le musée était en face du temple. J'étais venu travailler au musée sans voir le temple. Mais vous connaissez la modestie classique de l'architecture réformée. Elle n'est pas baroque, elle n'est pas ostensible. Et je n'avais vu que les archives. Et Pierre Boll, il a fait, dans les années 1980, quelque chose de tout simple, mais qui aujourd'hui ne serait plus faisable. Il a lancé des enquêtes par écrit, par lettre, à l'ancienne, hein, il n'y avait pas encore les mails, etc., auprès en particulier des théologiens, des pasteurs qui étaient réunis dans cette fameuse rencontre de Pomérol. Vous savez, les religieuses de Pomérol, là, c'est à côté d'Arles, hein, de Tarascon. Les pasteurs qui étaient là le 16 et le 17 septembre 1941, ceux qui étaient revenus un an après pour une seconde pastorale, ce n'étaient pas les mêmes. Et on faisait tous, moi le premier, des confusions entre les deux Pomérol. Et Pierre a écrit. Les gens qui aujourd'hui ont disparu, les gens lui ont envoyé par écrit. Quelquefois, il note, je lis longuement au téléphone. Ça, c'est tragique pour l'historien. Le téléphone ne laisse pas de traces. Mais les gens ont écrit de longues lettres, et ces lettres d'acteurs fondamentaux des années 40, qui lui écrivent dans les années 80, aujourd'hui sont au musée de la résistance à la déportation, et font partie des archives. Pierre a par exemple décidé un pasteur au nom hollandais, imprononçable pour un méridional, mais je me lance. C'est une figure majeure du XXe siècle. Le pasteur Adolphe ou Adam ? J'ai oublié son prénom. Wissertoft. Ça vous dit quelque chose ? Son prénom, c'est ? Bon, bref, le pasteur Wissertoft, vous savez qui était l'homme fort du Conseil œcuménique des Églises à Genève, eh bien, il était venu à Pomérol. Il avait pris des notes. Et ce qui est magnifique, ça c'est Pierre qui nous l'a appris, pour que ces notes soient, si jamais elles aient au moment les plus sensibles, pour que ces notes ne soient pas surprises par la police française ou suisse, il les avait écrites, certaines de ces notes, en néerlandais, pour tromper le gendarme moyen qui ne parle pas, vous le savez, le néerlandais, nous non plus. Voilà, et aujourd'hui, ces documents-là, ces notes qui seraient éparses, qui seraient perdues, qui n'auraient pas été suscitées, eh bien Pierre en a fait à son tour de l'archive, et l'historien n'est pas qu'un dévoreur d'archives, c'est aussi un fabricant d'archives. C'est vrai sur Pomérol, on le voit aussi pour le journal d'Alexis Mustang. Dernière chose, et dernier trait, je vais le définir ainsi, Pierre, je ne sais pas du tout si la famille qui est dans la salle se reconnaît dans le portrait qu'on trace, hein. Ce n'est pas une géographie, hein. Parce que l'Église réformée de France interdit la géographie, sauf pour les martyrs. Alors là, on en a des milliers dans nos musées, au musée du désert, mais là, non. Moi, je dirais que Pierre a été un inventeur, un collecteur, un défricheur, et d'une certaine manière, un disséminateur. Il a disséminé des idées. Je vais me risquer devant sa fille, je crois qu'il y a... ses filles, l'un de ses frères, je vais me risquer à dire que ce qui a caractérisé peut-être Pierre, peut-être que ce n'est pas du tout ça, sa vraie nature, une forme chez lui de générosité insouciante. Je veux dire par là que Pierre Boll, à mes yeux, je parle devant des collègues historiens, il y en a quelques-uns dans la salle, n'a pas eu cet égoïsme fondateur que, par exemple, j'assume avoir. C'est-à-dire que moi, je trouve que quand on a une idée, il faut en faire un livre, et plutôt de 500 pages que de 120. Et il y a une forme d'égoïsme. Bien sûr, vous répandez, vous êtes censé répandre du savoir, mais vous construisez, j'ose pas dire une œuvre, au minimum une bibliographie. Et Pierre a eu, par rapport à l'idée de faire quelques livres personnels, il a été, je crois, caractérisé par une forme, voilà, je répète, peut-être de générosité, peut-être d'insouciance, et je le regrette pour lui, je regrette, et j'en ai parlé avec l'un de ses derniers éditeurs, qui est l'éditeur de plusieurs d'entre nous ici, dont je voulais saluer le travail, c'est Éric Perard, d'Ampelos, qui est très lié au protestantisme drômois. Je crois qu'Éric a l'idée de rassembler les articles de Pierre sur les années 40, mais les articles qui étaient novateurs dans les années 80 le sont moins aujourd'hui. Voilà, le problème peut-être de cette belle générosité. Alors, vous avez ici dans cette salle des gens plus jeunes que lui qui s'efforcent de continuer son travail dans la reconnaissance. Et je citerai trois points forts sur lesquels nous avons continué. Les thèses de Pomerol, le journal d'Alexis Mouston, et puis aussi un journal qu'il voulait publier, un autre Jean, mais malheureusement, ce que j'ai retrouvé dans ses dossiers, il semble qu'il n'ait pas eu à l'époque tout, c'est pas un journal, ce sont les mémoires, qu'il n'ait pas eu tout le manuscrit, ce sont les mémoires d'une très grande dame du protestantisme français du XXe siècle, une des fondatrices, une des plus belles figures de la CIMAD au camp de Gurs, Jeanne Merle d'Aubigné. Là, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas la totalité des mémoires, mais voilà, Pomerol, Jeanne Merle d'Aubigné, Alexis Mouston, la continuation du travail de Pierre est assurée dans cette République des lettres à laquelle nous appartenons comme lui. Je vous remercie.